Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour faire au quotidien le tour de la question avec vos témoignages, avec vous Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Et après 6h34 d'échange hier avec 600 maires de France dans l'heure pour lancer le grand débat, Emmanuel Macron qui ne veut ni totem ni tabou. Oui, vous pourrez donc vous exprimer sur l'ISF, sur les 80 km/h. Et si les doléances sont massives en la matière, eh bien on verra si le gouvernement pourrait revenir sur ces mesures sous peine d'alimenter encore la colère. Le président Macron peut-il reconquérir l'opinion avec ce grand débat? La reconquête est-elle en marche? Vous avez répondu massivement sur Facebook. On vous donnera le résultat de cette question. Deux grandes voix d'Europe 1 réagissent avec nous ce matin. Catherine Ney, Charles Villeneuve et nous sommes avec le politologue Bernard Sananès. À 10h, nous vous faisons partager le métier de femmes en or, des femmes grands reporters qui risquent leur vie pour vous informer de Kaboul à Mossoul, de Beyrouth à Tripoli. Nous recevons ce matin Marine Jacquemin, Liseron Boudoul, des noms qui vous sont familiers. Ces femmes ont engagé leur vie pour nous informer dans des zones de guerre. Elles viennent témoigner ce matin avec vous sur Europe 1. Le standard est ouvert, Julie.
Le 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et vous nous direz si vous avez suivi une partie des échanges hier entre ces élus, entre Emmanuel Macron, Catherine Ney, bonjour.
Bonjour, c'est Wendy.
Charles Villeneuve, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour,
bonjour Charles. Et Bernard Sananès, président de l'Institut de Sondage Elab, merci.
Bonjour.
Bonjour de nous apporter votre analyse. Cet échange entre le président et ses 600 maires venus faire la synthèse des doléances relance une séquence qu'on pourrait dire intéressante, très importante et peut-être charnière pour Emmanuel Macron, qu'on a retrouvé avec une certaine énergie. Je voudrais d'abord que vous l'écoutiez affiner sa position, par exemple, sur les référendums d'initiative citoyenne, sur les 80 km/h ou sur l'ISF, en l'occurrence. On l'écoute tout de suite.
On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein, et je l'assume. Et quelque part, personne ne m'a forcé à être là où je suis, donc moi je suis très content et je le fais avec beaucoup de bonne foi et de vaillance avec vous. Mais il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient, bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Non.
Le coup de grisou, c'est de la pipe. Bon, il a retrouvé en tout cas ses formules fleuries, Catherine Ney. Peut-être même l'énergie de la campagne lorsqu'il était, il faisait tomber la chemise et il était là dans l'arène.
C'est-à-dire qu'on retrouvait quelqu'un qui a fait du théâtre et il y avait un peu de théâtre hier dans sa façon de s'exprimer.
Oui, on sentait qu'il prenait plaisir,
qu'il était
sur
scène. En tout cas, il sait se mettre en scène.
Ah oui, il se mettait en scène. Et c'était impressionnant de voir tous ces temps, la façon dont était composée la salle avec tous ses maires autour de lui et lui assis sur une chaise comme les autres avec sa bouteille d'eau qu'il buvait comme ça. Bon, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que d'abord, il voulait impressionner ses maires qui l'ont d'abord interrogé de manière quand même qui était quelquefois un petit peu agressive. Mm-hmm. Enfin, bon, et lui, il a montré que ce n'était pas un paresseux. Bon, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé qu'il parlait trop. Moi, j'étais assommée par ce flot de paroles. Je me disais, mais c'était tellement long sans boire. Et on voyait quand même l'assistant qui était un peu médusé. Les gens transpiraient, il faisait chaud. Et ils étaient assommés. Mais bon, alors que le président soit quelqu'un qui connaisse les dossiers. On se dit, mais qui d'autre que lui pouvait d'ailleurs tenir 7 heures comme ça? Peut-être Sarkozy quelques années plus tôt, mais personne aujourd'hui dans la classe politique est capable de connaître aussi bien les dossiers. Et vous savez, durant son itinérance mémorielle, le soir, et là on ne le savait pas, il dînait avec les maires. Et après moi, je leur téléphonais sur tout le parcours. Ils étaient éblouis par sa connaissance du dossier localement. Mais ils en savaient autant qu'eux, donc ils étaient très impressionnés. Le problème, ce n'est pas qu'ils sachent, c'est pas qu'ils connaissent les dossiers, ce qui nous impressionne aussi, parce qu'on dit quand même c'est quelqu'un, Macron.
Oui, il l'a encore
mais
prouvé hier.
C'est son sens politique, il s'arrange toujours pour qu'il y ait la petite phrase qui détruise et qui soit mal perçue.
Alors on va en parler justement de sa vision politique, de son sens politique, mais vous parliez de cette assemblée captive quand même, et on a vu ses maires avec une standing ovation à la fin, plutôt impressionnés, des maires dont il a cité le nom d'ailleurs régulièrement, avec un échange. Alors on n'a pas très bien compris, enfin il faut que vous nous expliciez l'intérêt de cet échange de 7 heures. On a eu comme l'impression que finalement, sur un certain nombre de questions, Charles Villeneuve, il désamorçait les choses. Et puis, en l'occurrence, quand même, qu'il donnait aussi son avis et que finalement, grand débat ou pas, il avait un avis déjà un peu tranché, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne.
Non, mais là, il a mis la France en arrêt maladie. Et il donne une feuille de soins.
Il fait une pause, oui.
Il donne une feuille de soins, il faut remplir cette feuille de soins. Mais il dit de toute façon qu'il a des limites. C'est pour ça qu'il aborde les 80 km/h oui. Et il a très bien compris que la verticalité de la décision était très mal comprise dans les territoires. Mmh. Il faut savoir qu'il y a au moins 4 ou 5 mois, et Catherine en est témoin, souvent nous échangeons tous les deux, le nombre de maires qui m'ont appelé, le nombre de présidents de territoire, ne serait-ce que celui du président du Cotentin, Jean-Louis Valentin, qui dès le départ me dit qu'il est en train de faire une erreur politique considérable. Il est en train de se couper des maires, des élus locaux. Il n'est pas le seul coupable. Le vrai coupable, c'est François Hollande. Le non-cumul des mandats. Mmh. Il ne faut pas l'oublier. La réforme régionale, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Basque à Biarritz et un habitant de la Dordogne qui tous les deux doivent s'adresser à la...
Pourtant,
à
c'est
la...
un ancien maire, maire du Havre, qui a porté, Édouard Philippe, cette mesure.
Oui, ben, il n'empêche que le maire du Havre, comme le président de la République, n'ont eu sur ce plan-là aucun sens politique. Et la question que pose Catherine, elle est très importante. Qu'est-ce qu'il va faire de tous ces cahiers de doléances? Parce qu'en fait, il demande au maire de l'aider justement à remplir ces cahiers de doléances. Oui, oui. C'est ce que j'appelle la feuille de soins.
Bah alors je resterai sur cette image de la France en arrêt maladie. On fait une pause en tout cas, on verra à quels égards ce grand débat est utile. Juste un mot Bernard Sananès sur l'exercice d'hier, comment le politologue l'a-t-il analysé?
Il y a un exercice de communication qui est, je crois tout le monde l'a dit, plutôt réussi. Mmh. Et puis il y a la lecture que peuvent en faire les Français. Et là-dessus, il faut que même nous d'ailleurs, on ne se trompe pas, ce que l'on va qualifier au regard d'une performance de communication qui est réussie, ceux qui ont vu... peut-être pas les 6h34 en entier, mais qui en ont entendu les reprises ou qui en ont vu les meilleurs moments, se disent « bon, mais finalement, ça change quoi ?» Et ça, on n'aura pas la réponse tout de suite. Le débat d'hier, il permet deux choses, à mon avis, pour Emmanuel Macron. Le premier, c'est de donner le sentiment qu'il renoue le dialogue.
Très clairement.
Il y a 8 jours, une partie des observateurs, et même sans doute des Français, se disaient « finalement, le quinquennat est fini ». Le quinquennat est fini, c'était le samedi soir de l'acte 8, il y avait eu beaucoup de violence, personne ne voyait même comment ce débat physiquement pouvait s'ouvrir. Oui, oui. Là, on va dire que la tension a un peu baissé. Donc, renouer le dialogue, rendre le dialogue possible, c'est clé pour Emmanuel Macron, parce qu'il a tout misé sur ce grand débat, comme si c'était en fait sa dernière chance de sortie de faire que son quinquennat ne soit pas fini. Si ce débat est raté, s'il n'y a pas de monde dans ce débat, s'il n'y a pas de participation, alors c'est il ça. Ne pourra pas rebondir dessus. Et puis deuxièmement, pour lui-même, redevenir audible. Pendant une partie de la crise des Gilets jaunes, jusqu'au 10 décembre, sans doute par une erreur de communication au moment des vœux aussi, on ne l'a plus entendu. Une partie des Français a rompu l'écoute. Ils étaient dans une situation où près d'un Français sur deux disait ne pas faire du tout confiance au président de la République, ce qui est un chiffre extrêmement, extrêmement fort d'hostilité. Là, il les sait via les maires. Et c'est là où on voit l'utilité des corps intermédiaires. Parce que qu'est-ce qui se passe hier soir? Ce n'est pas des députés En Marche simplement qui viennent faire sur les plateaux le service après-vente du grand débat. On a des maires divers droites, divers gauches, sans étiquette, comme souvent dans ces petites communes, qui viennent dire bah quand même, il nous a montré qu'il était compétent, qu'il connaissait les sujets. Et donc les corps intermédiaires, ça sert aussi voilà. à avoir, non pas des porte-parole,
non, mais des ambassadeurs peut-être.
Des relais.
Je vous donne la parole juste après. Merci beaucoup pour d'avoir posé déjà cet échange et cet état des lieux. Redevenir audible, renouer ce dialogue avec peut-être le débat de la dernière chance pour la reconquête d'Emmanuel Macron. On vous a posé la question sur Facebook. On vous donne le résultat dans un instant avec Catherine Ney, Charles Villeneuve, Bernard Sananès pour vous éclairer jusqu'à 10h sur Europe 1. Tout de suite.
Emmanuel Macron, la reconquête est-elle encore possible? C'est la question Facebook qu'on vous a posée ce matin. Vous répondez non à 71%. La reconquête est-elle encore possible? Non.
12 000 votes hein, depuis quelques heures.
Oui. Alors, en quelques commentaires. François-Emmanuel nous dit il n'a pas besoin de reconquête, mais de pouvoir appliquer son programme. Il faut qu'il fasse le boulot et de toutes les façons, il sera au mieux reconnu. Il ne sera au mieux reconnu que dans 10 ans si ses réformes fonctionnent. À l'instar de Gerhard Schröder, par exemple, qui n'est reconnu que maintenant, nous dit-il. Pascal, il a été élu pour 5 ans. Les gens vont peut-être ainsi prendre conscience de l'importance du vote. On ne peut d'ailleurs pas juger son action après si peu de temps. L'insulte ne mène à rien. C'est pas avec des Macron démission sur toutes les pages Facebook qu'on apporte des solutions.
Il est vrai, hein, il est vrai que ça ne fait que 18 mois et qu'on en parle depuis plusieurs jours maintenant. Et Julie, vous en êtes témoin avec nos différents invités. C'est aujourd'hui ce qui se passe, c'est le débat qui a été escamoté, le débat de la présidentielle. Tout remonte aujourd'hui et le président est en première ligne et doit redonner aussi la parole et souhaite d'ailleurs une délibération permanente. Hein. C'est ce qu'il a bien expliqué dans son échange avec les différents maires hier. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Bernard Sananès, vous êtes avec nous. On ne va pas trouver de solution à tout, mais on peut lever beaucoup de malentendus. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron en conclusion, avec ce besoin d'expression quand même, de démocratie directe. Ça, c'est tout à son honneur d'essayer de renouer ce fameux dialogue, comme disait Bernard Sananès.
Oui, oui, mais surtout, je crois que ce qui est assez incompréhensible chez Macron, c'est la différence entre ce qu'il était quand il était président, avant d'être président, quand il était candidat, et ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Il écrit un livre Révolution, peut-être un livre au titre prémonitoire, mais dans son livre Révolution, où il veut transformer la France, la grande transformation, il promettait quoi ? De faire plus pour ceux qui ont moins. Il disait qu'il fallait vivre de son travail. C'est justement ce que lui reprochent les gens aujourd'hui. On ne vit plus de notre travail. Il voulait réconcilier les Frances. Et puis surtout, il montrait une empathie formidable. C'était la bienveillance. Moi, je me souviens de son discours à Lille, où je me suis dit, là, il va gagner. Il avait parlé aux gens du Nord avec une empathie pour dire qu'ils comprenaient leur souffrance de ce pays qui avait perdu toutes ses industries, les mines, le textile, et ce qu'ils avaient souffert et qu'il fallait re-industrialiser. Et là, je me souviens, il y avait Jean-Paul Delevoye, qui n'était pas de son bord, et je l'avais appelé. Je lui avais dit, mais alors, vous ralliez le président, le candidat. Il m'avait dit, mais moi, j'attendais depuis longtemps un discours comme ça, vous voyez. C'était l'empathie. Et il arrive au pouvoir, et au lieu tout d'un coup d'ouvrir, de se montrer bienveillant, il s'enferme dans une secte, et puis il sort des trucs, et c'est comme ça, et puis c'est comme ça, et il est circulé, il n'y a plus rien à voir. Ouais, les gens ont quand même été, et puis au passage, il fallait qu'il sorte une petite vacherie. Je veux dire, le pire qu'il ait dit pour moi, c'est de dire que dans les gares, il y a ceux qui réussissent et ceux qui sont rien. Parce que comment est-ce qu'on peut dire ça ? Moi, je vais dans les gares, on ne pense jamais à ça, on ne se dit jamais ça. Tiens, il y a ceux qui réussissent et ceux qui sont rien. Il faut quand même avoir quelque chose, un mépris, je veux dire, on se demande quand même.
Juste un point sur ce que vient de dire Catherine, c'est assez marrant parce qu'on me demande souvent dans les enquêtes, est-ce que vous voyez un fait marquant, une rupture, une petite phrase qui a déclenché. Et si Catherine a été sensible à cette phrase-là, il y a beaucoup de gens qui nous disent, non, moi c'est à cette autre phrase-là. Certains, c'est la phrase sur l'horticulteur, il suffit de traverser la rue. Oui. Certains, c'est les retraités, vous avez le droit de tout sauf de vous plaindre pendant l'itinérance mémorielle. Certains, ce sont sur les propos un peu fermes vis-à-vis de Jean-Louis Borloo. Et donc, il y a
ça
en fait
beaucoup,
une accumulation,
une
sédimentation qui font que petit à petit, des catégories entières reprennent cette critique qui est, mais finalement, il n'exprime aucune empathie. Oui. Il ne connaît pas nos situations, il ne connaît pas nos problèmes.
Alors,
hier, ce qu'il a simplement essayé de dire via le filtre des maires, c'est aussi, regardez, on me dit éloigné, je connais les problèmes. Mais ce qui était vrai, c'est qu'il connaissait les problèmes des élus locaux, qui ne sont pas, et d'ailleurs c'était un des risques d'hier, forcément représentatifs tels qu'ils ont été exprimés. Les maires connaissent les problèmes des gens. Mais hier, il y avait beaucoup de sujets collectivités locales, qui ne sont pas forcément aujourd'hui les premières préoccupations.
Mais
il
répondait aux questions des maires.
Le vrai, d'abord, il faut revenir à l'origine quand même de tout ce mouvement. Ce sont les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça n'est pas représentatif de toute la France, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'ils sont représentatifs de deux sentiments importants dans l'opinion publique. C'est premièrement le sentiment d'injustice et deuxièmement le problème de pouvoir d'achat. Et quand on discute avec eux, on sent très bien, et notamment dimanche, c'était très intéressant de parler avec eux, justement dans les manifestations, dans la rue à Paris, parce que c'est aussi ça notre métier, d'aller essayer de dialoguer avec eux, c'était de voir que non seulement ils voulaient moins de violence, ils étaient encadrés, il ne faut pas l'oublier, beaucoup plus encadrés qu'à l'origine, et c'est en cela, et c'est pour ça que le flot a grossi, est passé de 50 000 à 80 000, et sans doute grossira encore plus, parce que beaucoup de gens qui sont dissuadés par les violences viendront maintenant aux manifestations. Donc, et les difficultés qu'il a à résoudre, ce sont celles-ci.
Oui, mais donc
c'est rien d'autre que celles-ci.
Malgré cette paralysie,
c'est pas les adductions d'eau, c'est pas le clocher de l'église qu'il faut réparer avec les maires ruraux,
même si c'est
leur
quotidien.
C'est d'abord la vie quotidienne des gens.
Il peut dire merci aux gilets jaunes quelque part qui ont permis à Emmanuel Macron de réenclencher une reconnexion avec la réalité de ce pays-là. Aujourd'hui, cette crise, le seul bénéfice de cette crise peut être celui-là, c'est-à-dire réussir la sortie de ce quinquennat. Il reste 3 ans quand même.
3
ans peut-être en renouant avec l'empathie.
Par exemple, définissiez. Hier, dans les questions des maires, il y avait des questions qui ne peuvent pas être traitées comme ça, en claquant des doigts, parce qu'ils demandaient plus de transport. Alors, ils parlaient d'hydrogène, mais il faut combien de temps pour créer des transports, pour que les gens dans les petits villages puissent avoir la mobilité dont ils ont besoin pour aller travailler? Mais ça prend beaucoup de temps, vous voyez. C'est que le temps est lent et l'impatience est violente, disait Apollinaire. Donc, on ne peut pas aller vite. Il sait quelles sont les solutions, mais il faut beaucoup de temps. Et dans le fond, on peut dire, je veux dire, c'est vrai qu'il fait c'est un gaffeur, hein, bon, mais quand même, il a hérité d'une France. Franchement, la France, elle est mal gérée,
Emmanuel,
mais depuis 35 ans. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez que l'Allemagne a 50 milliards d'excédents et nous, on en est, eh bien, c'est parce que, au moment, par exemple, où Schröder lançait cette politique qui était très dure pour l'Allemand moyen, qui était quand même dire non à l'État-providence, hein, nous, on faisait les 35 heures, vous voyez. Donc, et à force d'accumuler comme
il est héritier aussi, évidemment.
Il a hérité de
Mais avec une différence, c'est que l'impatience, évidemment, va grandissante dans nos sociétés. Et par ailleurs, il a été élu aussi en creux sur une promesse d'efficience, parce qu'il apparaissait compétent même à ceux qui n'avaient pas voté pour lui.
Pour
les gens
monde.
Se sont dit, il va avoir des résultats. Il va peut-être y arriver. Une partie, notamment, c'est très intéressant dans ceux qui l'ont rejoint au second tour. Parfois un vote par défaut, parfois un vote, j'allais dire, comme on dit aux cartes, pour voir. Est-ce qu'il va peut-être y arriver? Il peut peut-être y arriver. Et à quel moment la crise, notamment fiscale, dont vous parliez, se retourne? Ce n'est pas tant au moment de l'annonce de l'ISF. C'est à partir de début 2018, quand les Français se disent, finalement, il a baissé l'ISF. Bon, on n'était pas très pour, mais on se disait peut-être que. Mais au même moment, on a le sentiment que les impôts et les taxes augmentent pour nous. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un retour sur cette histoire de l'ISF qui devient paroxystique dans l'opinion.
Alors, on se retrouve dans un instant, les amis. Catherine et Charles Villeneuve, juste après la pause, je vous donne la parole, promis. On va parler de ce projet d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il transparaît de cette longue lettre envoyée aux Français, ce fameux cap, justement? Est-ce qu'il peut être réajusté? Et a-t-il les moyens, pour vous, avec ce grand débat, de la reconquête? Je vais donner la parole à Christophe, juste après la pause, qui nous appelle. N'hésitez pas à faire comme cet auditeur, à nous rejoindre au 39-21. On vous attend avec Julie et nos invités.
Le tour de la question sur les presque 7 heures d'échange hier avec 600 maires de France dans l'heure pour lancer le grand débat. On parle bien sûr d'Emmanuel Macron avec Wendy Bouchard et ses invités.
Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Catherine Ney et Charles Villeneuve de Grande Voix d'Europe 1. Le président qui souhaite avec ce grand débat ouvrir l'acte 2 de son mandat. Alors vous vouliez parler quelques instants avant d'accueillir Christophe très vite de son projet. Dans cette lettre aux Français qu'il a fait diffuser dimanche soir sur tous les réseaux sociaux, il dit Emmanuel Macron, j'ai été élu sur un projet. Est-ce que c'est pas là quand même un peu son péché originel et le fait qu'il se soit mis des œillères ainsi alors qu'il a été élu par 24% de la population, mais dans un contexte que l'on sait, dans un rejet aussi de Marine Le Pen, et que finalement, à force de s'accrocher à ce projet, il n'a pas voulu voir la réalité, Charles Villeneuve.
Non, mais c'est-à-dire qu'il est légitime quand il dit qu'il a été élu sur un projet. C'est vrai qu'il a été élu sur un projet.
Mais peut-être pas les Français.
Oui, tout à fait. Alors simplement, le projet, il fallait l'élargir et aller au plus profond, notamment de ce que vivent les Français. C'est en cela qu'on ne revient pas sur le sujet, puisqu'on vient de le dire, le non-cumul des mandats, la remontée des informations de ce que vit le peuple, finalement, c'est-à-dire l'électeur moyen, il ne l'avait plus. C'est vrai, il s'est isolé par rapport à ça. Mais simplement, je voulais juste revenir sur un point abordé par Bernard Sananès, c'est sur l'ISF. De dire qu'il a supprimé l'ISF, c'est faux.
Il l'a transformé,
puisque l'ISF sur le patrimoine immobilier est maintenu. Et ce ne sont pas les plus riches, justement, des riches qui paient cette
voilà
ISF-là.
Pourquoi François Hollande dit
les
que c'est
riches,
des riches,
ils ne sont plus là.
Oui, mais erreur de communication d'avoir dit que le mot ISF était supprimé parce que le mot ISF a une symbolique tellement forte dans
l'opinion. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Bonjour, nous vous écoutons, vous qui nous appelez de Rennes, cher Christophe.
Écoutez, je pense qu'il y a deux choses. C'est difficile en plus de passer après vos invités qui sont pertinents. Mais bon.
Votre parole est intéressante, évidemment, Christophe, on vous écoute.
Je pense assez simplement qu'il y a, deux choses, le fond, la forme. Sur le fond, à partir du cahier des doléances, si le président Macron veut retrouver un peu plus de couleur et de légitimité, je pense que il faut qu'il démontre que ce grand débat sera suivi d'effet. Ensuite, il y a des choses qui dépendent pas forcément de lui, qui tiennent aussi à l'économie. C'est-à-dire, est-ce que dans les temps à venir, les Français vont pouvoir constater que leur pouvoir d'achat s'améliore. Est-ce que la croissance va être favorable dans les temps à venir? Parce que l'INSEE est quand même très réservé. Et puis, les gens ont aussi besoin de voir que la courbe du chômage, elle tend franchement vers le bas. Par ailleurs, sur la forme, renouer avec les corps intermédiaires, c'est inévitable. C'est-à-dire les avoir zappés pendant plusieurs mois, c'était une erreur monumentale. Dans le savoir-être, c'est-à-dire dans sa posture, les gens attendent l'empathie, la bienveillance, l'écoute, pas un type larmoyant, mais l'empathie. Et par ailleurs, effectivement, je pense qu'il y a un choc entre le Macron en campagne et le Macron président.
Comment vous l'avez trouvé hier? Je ne sais pas si vous avez suivi quelques séquences et quelques extraits de cet échange avec les maires, Christophe.
Moi, je l'ai trouvé plutôt à l'aise dans l'exercice.
Plutôt dans la reconquête, justement, d'une énergie passée, éventuellement perdue. C'est très intéressant ce que dit Christophe sur le fond et sur la forme. Oui. D'abord, Charles Villeneuve.
Oui. Et ce qu'il vient de dire est très intéressant, notamment la différence entre Macron en campagne et Macron président. Parce que là, il est en train de recommencer une nouvelle campagne présidentielle.
C'est pour ça qu'il parle
en
d'acte 2,
d'ailleurs. En réalité, si vous voulez, les débats qui s'ouvrent et le fait que dans toutes les régions, normalement, dans les 12 régions, on verra un certain nombre de débats identiques un peu à celui auquel nous avons assisté hier.
Ça durera aussi longtemps.
Là, c'est une nouvelle campagne présidentielle. Par quoi sera-t-elle sanctionnée? Puisqu'il pose une autre très bonne question, Christophe, c'est que comment ça va se traduire? Comment il va pouvoir passer, si vous voulez, de l'échange à l'action par rapport, évidemment, à la psychologie générale des Français qui en attendent?
Oui, et alors là, qu'il dit que ce n'est pas une élection, que ce n'est pas un référendum, ce grand débat,
et là,
mais
c'est un match qu'il a commencé,
d'action,
qui est très, très délicat à gagner.
Ouais. Mais bon, on verra s'il a les arguments et les instruments pour. Petite pause, Bernard, et je vous donne la parole juste après. Bernard Sanalès, merci beaucoup, Christophe. Vous voyez, vous n'avez pas à rougir de votre intervention qui était très intéressante, très pertinente. N'hésitez pas à faire comme cet auditeur, on vous attend. Le Standard vous accueille.
Julie. Le 39-21. À tout de suite. Emmanuel Macron, la reconquête est-elle encore possible? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités, Bernard Sananès, qui est politologue, président de l'Institut de sondage ELAB, et deux grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney et Charles Villeneuve.
Emmanuel Macron qui n'a esquivé aucun sujet hier face aux maires, 600 d'entre eux dans l'heure pour le premier de ces 13 débats au cœur de ce grand débat lancé officiellement hier. Yves, qui est maire, va nous rejoindre dans un instant au Standard d'Europe 1, on va lui donner la parole. Bernard Sananès, vous vouliez réagir sur ce que nous disait Christophe, précédent auditeur. Il va falloir qu'évidemment tous ces mots se transforment en action et qu'ils adviennent quelque chose de très concret de ce fameux grand débat qui ne doit pas être juste une pause dans notre pays.
Bien sûr, alors même si l'exercice est inédit, des consultations, nous sommes beaucoup à organiser, la commission débat public, on a beaucoup critiqué, on a organisé. Ce qui compte pour que les gens viennent participer, c'est qu'à un moment, ils puissent se dire, est-ce que mon avis va compter? Est-ce qu'il va être entendu? Et pour l'instant, le doute, on le voit dans les enquêtes, est sur ce point-là. Donc hier, en ouvrant largement le débat, y compris dans le courrier, Emmanuel Macron aussi a cherché à faire ça. Il a parlé de V2, mais je pense qu'il y a une autre question qui est un peu plus, on va dire, psychologique, c'est convaincre les Français qu'il peut changer. Les Français aujourd'hui sont extrêmement critiques, sévères vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut donner le sentiment qu'il va changer à la fois sur son projet, ses orientations qui sont très contestées, notamment Charles Villeneuve l'a dit en matière de justice sociale, mais aussi est-ce qu'il peut changer lui-même? Est-ce qu'il peut emprunter une posture nouvelle, une posture plus rassembleuse? Parce que si le Macron avait réussi à être un bon communicant en campagne, le Macron président, il y a eu des très bonnes séquences, notamment vis-à-vis de l'international, tout ça, mais c'est vrai que la dimension du rassemblement qui est très attendue du président de la République ne se retrouve pas aujourd'hui. On a des Français qui vous disent que c'est un président qui clive, qui au contraire nous montre les uns contre les autres.
Y compris Charles Villeneuve dans son entourage. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple avec un de ses hommes forts, son homme de plume, qui est devenu son directeur de communication, Sylvain Faure, qui a jeté l'éponge quand même, pour dire les choses clairement?
Oui, non mais il va tout changer. Il va quasiment changer, je ne dirais pas toutes les têtes de son équipe qu'on surnomme, si vous voulez, entre nous dans, entre journalistes, oui, etc., à la secte, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la conquête du pouvoir.
Il a compris que ce n'étaient pas les bonnes personnes.
Non, mais est-ce que ceux qui participent, vous savez qu'aux États-Unis, notamment à la Maison-Blanche, l'équipe qui fait partie de la conquête du pouvoir n'est jamais celle qui va l'exercer.
L'équipe de campagne n'est pas celle qui exerce.
Alors, il va changer beaucoup de choses, parce que dans cette transformation, si vous voulez, dans cette ouverture, cette lettre aux Français pour reprendre contact, justement, avec l'opinion publique, il y a une autre révolution parallèle, si vous voulez, moins importante aux yeux des Français, ce qui est normal, parce que ça n'intervient pas dans leur vie quotidienne, c'est toute son équipe qui va changer. Donc, il a tiré quand même des leçons. Il faut lui reconnaître, tout à l'heure, on est tous d'accord sur un point, c'est que l'homme a une puissance de travail, une puissance intellectuelle indéniable. Indéniable. C'est un cador sur ce plan-là, il faut le reconnaître.
Oui, il épuise ses équipes, mais là, ils n'étaient plus en phase.
Simplement, maintenant, Bernard Sananès pose, à mon avis, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un virage à 180 degrés pour satisfaire les Gilets jaunes?
C'est ça.
Ils veulent tous plus de services publics, plus de crèches, plus de postes, plus d'écoles. Est-ce qu'il peut le faire? Il va baisser les impôts. Il va révoquer les députés, puisque c'est ce qu'on lui réclame aussi. Oui, de toute façon,
il dit ironique, c'est pas la rue qui fait bouger.
Parce que c'est l'homme
politique,
de la réforme, quand même. Il ne faut pas l'oublier.
Catherine.
Donc, il y a une limite à ce qu'il pourra faire. Mais il faut qu'il continue à réformer aussi. C'est essentiel. Tout à l'heure, Catherine Ney posait la vraie question par rapport à l'Allemagne, un partenaire qui prend de plus en plus le large par rapport à nous. C'est s'il y a un pays solide Europe, c'est l'Allemagne,
ça veut dire,
c'est
il change,
pas nous.
Il change, il comprend, il continue de réformer.
Quand un président fait des gaffes, on dit qu'il est mal entouré. Non, le problème, c'est lui. C'est pas parce qu'il va changer ses équipes qu'il sera...
C'est le chef qui prend la décision.
Qu'il sera inutilement blessant et peu empathique. Oui. Le problème, est-ce qu'il est capable maintenant d'arrêter toutes ces petites phrases, parce que ce que l'on a vu hier, qui nous a tous impressionnés, d'ailleurs moi à la fin on était fatigués parce qu'on n'en pouvait plus, on prenait des notes, bon, mais il ne va pas recommencer toutes les semaines, il ne va pas aller tous les 15 jours,
parce qu'il dit,
on ne le regardera pas de la même manière, parce que bon, on a compris, maintenant qu'est-ce qui se passe, bon, et puis il va nommer des garants,
le signal qu'il envoie avec les personnes qui l'envoient comme garant.
Mais il n'y a pas besoin d'en avoir 36,
bah, 5.
Il va y en avoir 5, mais c'est
5
trop.
Pour deux mois de débat.
Les ministres, les jeunes ministres, Sébastien Lecornu, c'est sûrement une des têtes les plus politiques du gouvernement. Oui. On a vu comment il répondait à ce gilet jaune, à cette femme gilet jaune qui disait qu'il répondait des fake news. C'est pas ça. Mais moi, je pense que lui... Il va énerver les gens s'il recommence tous les 15 jours à faire toujours la même chose.
C'est pour ça qu'il
ferait bien, un peu de se dégager, de se donner du terrain, et surtout de ne plus. Maintenant, on guette lorsqu'il se déplace la petite phrase inutile. Hier, il y en avait une là quand il dit les gens qui déconnent et tout ça. D'ailleurs, un président ne doit pas parler comme ça. Mmh. Donc, on va à chaque déplacement noter des trucs.
On ne peut pas lui reprocher. On n'arrêtait pas de dire le pouvoir isole. Là, il revient à la conquête.
Là, je trouve qu'on va chercher des garants. On les nomme comme s'ils étaient au Conseil constitutionnel avec le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. Oui. Moi, je trouve que pour une chose comme ça, il faut un homme...
Ça donne un peu de hauteur au débat.
Ça donne un peu de hauteur, ça va dépendre de qui ils vont choisir. Ils
ont
du mal à les trouver, d'ailleurs. Bon. Mais moi, je trouve, par exemple, un type comme Delvoye, qui vraiment a le sens du social, qui, lorsqu'il reçoit les syndicalistes, je veux dire, ils sortent de là assommés par son discours, tellement il sait les faire parler.
Oui.
Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui incarne, une sensibilité sociale. C'est ça, c'est quelqu'un qui est cette stature-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces trois-là? On va les entendre.
On va dire le phasage du débat. Il y a la première partie qui est faire remonter les revendications, permettre qu'elles s'expriment. Ça, c'est lancé. Ça va sans doute fonctionner si le débat est sincère. Il va y avoir sans doute des millions de contributions par Internet, dans les réunions, etc. Première phase. Deuxième phase qui est la synthèse. À un moment, je plains celui qui écrira la synthèse. Parce que ce sera extrêmement compliqué, mais c'est possible.
Oui.
Mais comment, et c'est là-dessus aussi où Emmanuel Macron hier cherchait à adresser un message, y compris à ceux qui ne sont pas gilets jaunes, pour leur dire, venez dans le débat. Parce que regardez le débat sur l'ISF. Le ISF, on le sait, 70% des Français sont évidemment pour sa suppression. Il y a 30% des Français, 25%, 30% qui pensent que ce n'est pas si mauvais que ça. Qui va venir porter cette parole-là dans le débat? Parce que hier, dans le débat, Emmanuel Macron, lui, défend l'ISF. Mais quand Emmanuel Macron n'est pas là, je ne parle pas simplement du débat avec les élus, dans le débat avec les Français, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, troisième point, Charles Villeneuve l'évoquait, comment il y a en sortie des mesures symboliques, mais quand je dis symbolique, concrète, parce que ce débat hier ne répondait pas forcément à toutes les attentes des gens, sur la fiscalité, sur les injustices, sur le pouvoir d'achat.
D'où la nécessité d'avoir une petite armada, donc garant. On va parler juste après. Vous gardez vos arguments, Charles ?
Non, ce n'est pas des arguments. Il faut rappeler quand même le timing de cette affaire.
Juste après la pause. Quel teasing, monsieur Villeneuve. À tout de suite. Comment faut-il comprendre l'échange entre Emmanuel Macron et les 600 maires présents hier dans l'heure ? On retrouve Wendy Bouchard et les analyses de ses invités.
La reconquête d'Emmanuel Macron est-elle encore possible ? C'est le tour de la question ce matin avec Bernard Sananès, président de l'Institut de Sondage ELAB, politologue et deux grandes voix d'Europe 1 que vous connaissez bien et que vous appréciez, Catherine Ney et Charles Villeneuve. La reconquête est-elle encore possible pour vous ? Vous répondez sur Facebook non à 71%. Vous avez été près de 13 000 à réagir depuis ces dernières heures. Mais on essaye de voir justement les choses avec un peu plus de positive attitude. Nous écrirons avec vous l'acte 2 du quinquennat. Je tirerai des solutions de ce débat car je veux en faire un acte 2 de mon mandat. Voilà ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Charles Villeneuve, je vous laisse la parole comme promis avant d'accueillir Yves dans ce débat.
Non, mais c'est simplement de rappeler combien de temps ça va durer. On disait, comment on va en sortir ? Qu'est-ce qui va en sortir ?
Il y a déjà deux mois de débat.
J'utilisais l'image de l'arrêt maladie. Si vous voulez, la feuille de soins, elle va durer pendant deux mois. Jusqu'au 15 avril, c'est ça.
Mars.
À partir du 15 avril, le président de la République, qui va être en quelque sorte le médecin, le patron du service de synthèse, puisqu'il va falloir écrire un diagnostic, va mettre un mois. Donc on en a encore pour 19 semaines, en gros, 3 mois.
Oui, on arrive en avril à quelques semaines des Européennes.
La feuille de soins, on l'aura finalement dans 3 mois, en gros.
Oui.
Bon. Mais là, il cherche la méthode.
Pour remettre sur pied un malade,
par rapport à sa prestation d'hier, qu'il a quand même trouvé une méthode. Maintenant, le problème est de trouver les bouées de sauvetage pour purger la colère et la crise sociale que nous vivons à l'heure actuelle.
Alors, et pour ça, juste avant de vous donner la parole, chère Catherine, je voudrais qu'on accueille Yves, parce que Yves a un témoignage à nous livrer. Vous êtes maire, cher monsieur, dans l'Allier, de la commune de Meillard, depuis une trentaine d'années. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Bonjour.
Je partage beaucoup de propos de Catherine Ney. Alors, en tant que maire et pour avoir été parlementaire, c'est toujours agréable de recevoir une invitation de l'Élysée. Mais il faut faire très attention. Vous savez, les maires, on en a besoin pour les Gilets jaunes, on en a besoin au Congrès des maires quand on les invite à l'Élysée, qu'on se renvoie au Congrès des maires.
Oui.
Et puis, on les pressure avec moins de dotation. Je vais vous donner une anecdote. Chaque commune de France donne des honoraires, certains refusent, aux percepteurs pour les aider dans l'élaboration des comptes.
Ben,
ceci n'est plus fait. Ceci n'est plus fait. Et puis, je l'ai dit, si vous voulez, ce qui manque beaucoup dans ce débat, c'est une commission sur comment créer des richesses en France, comment relancer la croissance et faire en sorte qu'on puisse partager les gains d'une production. Aujourd'hui, on veut partager des prêts, des crédits. Mais on ne sait pas comment on va faire. Parce que dans une commune, vous savez, moi j'ai pris une commune qui était à la limite de la ruine, et sans augmenter les impôts en 30 ans, aujourd'hui je fais 10 fois plus d'investissements que mes collègues. Et donc je fais travailler les entreprises. En conséquence, dans ce débat, il y a quelque chose qui est grave, à mon avis, c'est que le président n'a plus d'intermédiaire pour discuter. Il discute en direct. Comment va-t-il faire demain ?
Alors,
c'est une grande difficulté.
Justement, c'est tous ces intermédiaires qu'il veut remettre en selle et avec lesquels il veut renouer le dialogue. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Yves, parce que c'est vrai que le versant économique, d'abord, il n'existe pas dans ce débat-là, mais parce que, comme si Emmanuel Macron disait, c'est ma partie.
Mais c'est pas ma partie. Regardez, les Gilets jaunes, le départ, le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, c'est l'essence, c'est le...
C'est le pouvoir d'achat et c'est la situation
c'est
économique.
Mais il a déjà répondu. Il a déjà répondu aux retraités. Il revient sur la CSG pour ceux qui ont. Il a baissé les taxes. 10 milliards. Mais comme le dit Yves, 10 milliards, ils ne sont pas financés.
Ouais.
Les 10 milliards vont être financés par l'emprunt. Alors où est-ce qu'on va ? C'est ça le problème aujourd'hui. Alors si là, il lâche des choses économiques pour les Français qui le réclament, c'est la synthèse. Synthèse, priez pour nous. Comment ils vont s'en sortir, vous voyez ? S'il faut encore emprunter, on est un des pays européens le plus endetté.
Plus endetté.
Il y a plus endetté que nous, il y en a un ou deux. Mais surtout, on est recordman du chômage. On ne sort pas du chômage France.
Yves, est-ce que vous participez au grand débat dans votre commune de Meillard
c'est une petite commune. Pour tout vous dire, j'ai reçu les gilets jaunes. J'ai essayé de les aider à partager un constat.
Oui.
Parce que le problème, c'est qu'il faut déjà partager un constat. Et vis-à-vis de ce constat, il y a des choses possibles et des choses impossibles. Donc, dans les propositions, c'est de dire, est-ce que c'est possible ? Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le 80 km/h.
Oui.
Moi, j'ai dans mon secteur des anciennes nationales qui font 5-6 mètres de large. Le 80 km/h est ridicule. J'ai des départementales qui font 3 mètres de large. Le 80 km/h est indispensable parce qu'on ne peut pas se croiser sans prendre l'accotement. Mmh. Donc, il y a du bon sens à faire. Sur l'ISF, je l'écrivais ce matin à ma députée. Je veux dire, l'ISF, si ça avait marché entre nous, depuis 81, est-ce qu'on aurait autant de déficit, autant de chômage ? Résultat, favorisons l'investissement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Incitons les gens à investir, relançons ce pays, ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30, ce qu'a fait De Gaulle dans les années 60.
Oui. Et
on est en panne.
Pardon, oui. Yves, l'intérêt de ce débat et la vertu de ce débat, c'est que vous prenez la parole, par exemple, sur cette antenne et qu'on va vous entendre et que vous, les maires, qui êtes des relais essentiels dans cette vie politique de française, vous pouvez être ambassadeur aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer. Au moins, vous aurez gagné ça, on aura gagné ça.
Bien sûr.
L'ISF, ça, faut quand même le dire que ça a fait plaisir à la gauche, mais ça a fait partir tous les gens qui avaient de l'argent, qui sont à Bruxelles, qui sont à Genève et qui créent de l'emploi. Et ça a fait beaucoup de manque à gagner pour le pays.
Juste après la pause, merci beaucoup de votre témoignage, cher Yves, de la commune de Meillard, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Allier. On se retrouve avec l'analyse de Bernard Sananès à suivre. Et n'hésitez pas encore à réagir. Sur Twitter, vous le pouvez également. Et au Standard Europe 1, on le rappelle, Julie.
Le 39-21. Et pour Twitter, le hashtag Europe 1.
Comment Emmanuel Macron peut-il s'en sortir aujourd'hui ? On peut aussi parler de ce qu'il a réussi et ce qu'il a raté ces 18 derniers mois, Wendy Bouchard.
Pour l'acte 1 de sa présidence, alors que l'acte 2 peut redémarrer avec ce grand débat qui nous convaincra, j'espère, et qui assortira des différents citoyens, les élus au centre, comme Yves, maire de cette petite commune de l'Allier, qui réagissait. Ces propos vous font également réagir, Bernard Sananès.
Oui, parce que sur le 80 km/h, on voit bien qu'il y a une piste de sortie possible, qui est de dire finalement que cette mesure s'applique, mais pas de la même manière, de manière unique. Uniforme sur tout le territoire. Mmh. C'est ce que beaucoup d'élus avaient plaidé. Ce à quoi, faut le dire, les opposants, ceux qui sont partisans de la mesure de limitation de vitesse, disent que c'est très compliqué d'installer une norme si elle n'est pas unique sur le territoire, mais il va y avoir le débat. On voit bien que là, il y a une piste de sortie. Deuxième
mais comment
point,
ça, sur un trajet, on peut passer de 90 à 110
C'est vrai qu'en termes de communication,
les
partisans de la mesure disent que c'est beaucoup plus compliqué.
Il ne faut peut-être pas être trop raide sur le sujet. Il était inflexible et
ce sera justement un symbole aussi de est-ce que la V2 du macronisme. Plus à l'écoute et aussi cette idée d'expérimenter sur les territoires qui est demandée par beaucoup d'élus, sortir un peu du centralisme et du jacobinisme à la française. Deuxième point, au-delà de l'ISF, il y a une question et c'est intéressante parce que c'est presque la seule, en tout cas celle qui le fait le plus, qui fédère à la fois ceux qui sont gilets jaunes et ceux qui ne le sont pas, c'est la question des impôts et des taxes, encore plus que le pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, elle est beaucoup plus marquée chez ceux qui se disent gilets jaunes. En revanche, sur la question de l'impôt, du rapport à l'impôt, est-ce que je donne plus que je ne reçoit, grosso modo, pour faire simple, ou la version plus triviale, mais qui a beaucoup impacté, de « qu'est-ce que vous faites du pognon ?» de Madame Moreau. Là, ce thème-là interroge et interpelle de la même proportion quasiment ceux qui se disent gilets jaunes et ceux qui ne le sont pas. Et donc, la sortie pour Emmanuel Macron, ça peut être aussi la question, pas seulement du pacte avec la société, mais d'un nouveau pacte fiscal. Ça peut être une des thématiques de réponse.
Juste s'il renoue avec cette vision politique
plan,
dont vous
mais
doutiez
tout à l'heure. Yves, justement, posait une question formidable sur les 10 milliards, plus évidemment les 3 ou 4
et comment
de
les richesses dans ce pays
de la taxe. Mais on oublie quand même toutes les primes qui viennent d'être distribuées, qui sont quand même qui vident la caisse entre les policiers, les gendarmes, les aides-soignantes justement de l'EHPAD, Madame Buzyn, plus Darmanin par rapport aux agents fiscaux, etc. Vous imaginez tout ce que où va-t-il trouver tout cet argent ? La ligne budgétaire du prochain budget, je ne sais pas, mais elle sera largement déficitaire. Non mais c'est une des questions importantes justement par rapport à ce que vient de dire Bernard Sananès sur le plan fiscal. On veut moins d'impôts, à juste raison. C'est vrai, on en paie pas mal ici autour de la table.
Catherine
Ney. Oui, je veux dire, comment créer de la richesse, c'est un vrai, vrai problème, mais c'est un problème que personne ne se pose en France depuis 30 ans. On a créé de telles lois, de telles choses, il y a tellement de... c'est vrai, quand Macron dit, on donne un pognon dingue, Ça, c'est vrai, on donne un pognon dingue, ça va. Et c'est les vrai. Gens pensent que c'est un dû. Et, je veux dire, et c'est vrai que le nombre d'emplois qui sont proposés aux Français et qui ne les prennent pas, pourquoi ? Alors, certains ne sont pas forcément habilités à les prendre, mais beaucoup, c'est parce que ça ne leur convient pas, parce que c'est des emplois le week-end, parce qu'ils ne veulent pas. Et je veux dire, on a développé une culture, dans le fond, du non-travail, avec des aides sociales qui font que ça n'encourage pas.
Une culture de l'assistanat, autre petite phrase, voilà, sur ceux qui déconnent, justement.
Eh ben oui, c'était ça qu'il voulait dire, mais il l'a dit de manière inappropriée, mais c'est ça qu'il voulait dire.
Mais ceux qui se disent gilets jaunes, et la plupart des Français, d'ailleurs, n'ont pas cette revendication. Ils disent, on est attaché à l'effort, au travail. D'ailleurs, on le voit bien dans les questions posées par les gilets jaunes, la question du chômage porte peu, c'est plutôt comment mon travail est reconnu, oui, c'est valorisé,
oui,
et c'est là-dessus que les propos d'Emmanuel Macron peuvent apparaître encore plus choquants, comme si finalement il n'avait pas vraiment pris la mesure par moment de la souffrance sociale du pays.
30 secondes pour terminer, et pour chacun d'entre vous, par quel instrument la reconquête d'Emmanuel Macron, si elle est possible, passera-t-elle ou pourrait-elle passer pour vous, Emmanuel?
Ben, c'est le retour à la bienveillance, oui. Quoi, qu'il ne multiplie pas ses petites phrases, parce que maintenant ça devient même un tic de journaliste, à chaque fois qu'il sort, on cherche la pépite, en effet. Il va créer la polémique. Oui. On va dire, tiens, il a
et
dit ça, il n'aurait pas
de la
dû
pipe,
le dire.
Hein, ça,
et alors, quand
pipe.
On lui en fait la reproche, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça.
Oui. Donc voilà, donc polissez déjà le langage et retrouvez l'empathie des débuts. Charlie Neuf, pour vous.
On oublie quelque chose, si vous voulez, dans toute cette affaire qui commence, qui va durer donc 3 mois, qui, jusqu'au 15 avril à peu près, c'est qu'il va falloir sans doute faire des modifications institutionnelles même. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas, si vous voulez, que la baisse des impôts, l'amélioration du pouvoir d'achat, mais vraisemblablement aussi
d'ailleurs, le fonctionnement des institutions démocratiques
du pouvoir législatif, de la représentativité. On parlait justement de l'empathie, de la bienveillance, etc. Cette bienveillance aussi, il faut qu'elle trouve ses effets, oui. Si vous voulez, parlementaires,
donc,
sur le plan
acte.
Du fonctionnement. Donc il y a certainement aussi une partie... certainement d'une négociation de grand compromis, oui. Avec l'opposition, même si donc, elle existe, elle est pratiquement inaudible aujourd'hui.
Il faudra cette ouverture d'esprit. Bernard Sananès,
pour finir. Je dirais pas de reconquête possible pour Emmanuel Macron sans inflexion de la politique, notamment sur le volet social de cette politique, on l'a dit. Deuxièmement, pas de reconquête crédible sans changement de posture et de méthode, notamment dans le dialogue avec les corps intermédiaires, les élus, mais aussi les Français. Et puis, au final... Parce que de toute façon, s'il y avait début de reconquête, elle ne pourrait se juger que dans un an ou deux. Pas de reconquête sans résultat. On l'oublie, le macronisme et les 2 premières années du quinquennat souffrent aussi d'une absence de résultats tangibles qui ferait que les Français auraient repris un peu confiance dans le pouvoir politique.
Mais les résultats
Bernard
sont longs
Sananès,
à venir.
De l'Institut Elab. Merci beaucoup Charles Villeneuve, Catherine Ney pour votre analyse. C'était un plaisir de vous recevoir ici dans ce studio d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant avec une profession qu'on souhaite mettre en lumière avec vous, celle de femmes reporters pour les journaux, pour la télé, pour la radio, la photo, qui risquent leur vie au quotidien et qui viennent témoigner ce matin. Nous recevons avec Julie Marine Jacquemin et Liseron Boudoul. À tout de suite.